Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe Arrojo. Moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout, loin des clichés. Quelles sont leurs réussites? Quels obstacles ont-ils surmontés? En quoi l'expatriation les a changés pour la vie? Que vous soyez déjà expatrié ou candidat au départ, vous trouverez dans ce podcast des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Expat Heroes. S'adapter, se réaliser à l'étranger. Tout plaqué pour monter une activité touristique dans un pays au soleil, beaucoup en rêvent, très peu sautent le pas. Clémence et Fabien ont osé et ils se sont installés au Sri Lanka pour monter leur activité touristique. Pourquoi ont-ils pris cette décision? Comment ont-ils fait? Quels obstacles ont-ils surmontés? Clémence nous raconte cette incroyable aventure et nous fera voyager en deuxième partie avec sa voix, avec ses mots, au Sri Lanka. Clémence nous expliquera aussi comment ils arrivent à faire face à cette crise du coronavirus. Énorme big up d'ailleurs à tous les entrepreneurs expats en difficulté à cause de la Covid-19. Clémence nous raconte comment elle a monté une activité touristique avec son chéri Fabien au Sri Lanka, tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Clémence.
Bonjour Christina.
Depuis janvier 2019, tu es installée avec ton compagnon Fabien à Kandy au Sri Lanka. Pourquoi avoir quitté la France et pourquoi avoir choisi le Sri Lanka?
Alors, ça s'est un petit peu fait vraiment par hasard. En 2018, nous sommes allés visiter le Sri Lanka pour la première fois. On a eu un véritable coup de cœur pour ce pays, que ce soit le paysage, la gentillesse des gens. C'est vraiment un voyage qui nous a énormément marqué. Et puis, quand on est rentré en Suisse, parce qu'on est Suisse, quand on est rentré en Suisse, Fabien m'a dit « Écoute, viens, on va vivre au Sri Lanka ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là de notre vie, moi, j'avais une salle de sport, mais j'avais le pied cassé, donc c'était pas très pratique pour moi pour donner les cours. Fabien, ça allait plus trop non plus au niveau de son travail, donc on s'est dit « Bah, pourquoi pas, quoi ?» Donc, on est un petit peu allé au Sri Lanka. On s'est un petit peu expatrié au Sri Lanka, vraiment, je dirais, le hasard de la vie, le hasard des choses.
Et quand il t'a proposé ça, tu t'es dit « Non, mais t'es sûre ?» ou t'étais au contraire plutôt emballée par cette idée?
Un petit peu mitigée parce que c'est vrai qu'on a déjà, on a beaucoup voyagé. C'est pas la première fois qu'on parle de pourquoi pas un jour vivre dans un autre pays. Mais je le pensais pas sérieux, mais en même temps, ça m'attirait quand même un petit peu. C'était vraiment un petit peu mitigé. Et puis, j'ai vu qu'il était vraiment sérieux, en fait, quoi.
Alors, vous avez lancé une activité de maison d'hôte au Sri Lanka en avril 2020. Comment vous vous êtes préparé à ce lancement d'activité? Parce qu'au départ, j'imagine que vous êtes allé faire des repérages. Comment vous avez choisi de vivre à Kandy?
Suite à notre premier voyage au Sri Lanka en avril 2018, on a parlé un petit peu de ce projet d'expatriation à nos proches et tout le monde nous a dit « Écoutez, c'est bien, c'est un super projet, mais revenez un petit peu sur Terre, partir vivre dans un pays et y être en vacances, ça n'a rien à voir. » Donc, on est reparti un mois. Notre idée, c'était vraiment de faire un maximum de repérages, que ce soit au niveau de l'endroit où on voulait vivre, que ce soit des rencontres d'expatriés, parce qu'il n'y a que les expatriés sur place qui peuvent vraiment être de bons conseils. Et on a eu raison, parce qu'honnêtement, on a changé plusieurs fois d'avis quant à notre lieu de résidence. On a choisi Kandy, pas forcément parce que c'était un coup de cœur, mais parce que c'était un endroit stratégique où les touristes passent forcément. Donc, quand on a une guest house, c'est quand même important d'avoir du business tout au long de l'année et pas seulement 6 mois de l'année. Et aussi parce que Kandy est une grande ville. Et c'est vrai que moi, je suis parisienne, Fabien est suisse. Il est genevois exactement, donc on vient quand même de deux villes assez grandes. Et on n'avait pas envie de se retrouver du jour au lendemain, loin de notre famille, loin de nos amis et dans un tout petit village au fin fond de la cambrousse sri-lankaise, quoi. Donc, on a vraiment choisi Kandy par stratégie pour un confort personnel et pour un confort de business, tout simplement.
Quand tu dis que c'est un passage obligé, je ne connais pas bien le Sri Lanka, c'est proche d'un aéroport, en fait ?
Alors non, en fait, Candy, c'est la grande ville du triangle culturel. Donc, le triangle culturel est composé de trois grandes villes, Polonnaruwa, Anuradhapura et Candy. Et en fait, c'est des sites religieux. C'est les sites religieux les plus importants de l'île. Mmh. À Candy, donc, toute la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on a le temple de la dent. Le temple de la dent, c'est un temple qui renferme une relique de Bouddha. Donc, c'est vrai que c'est un endroit indispensable à voir lors d'une première visite au Sri Lanka. Tous les tours opérateurs passent par ici, tous les touristes passent par ici. C'est un endroit incontournable. On ne peut pas aller au Sri Lanka sans passer par Candy, ce n'est pas possible.
Du coup, l'idée en fait, du projet de maison d'hôte a mergé une fois sur place. Vous aviez déjà ça un petit peu en tête au départ ?
Alors, on avait un projet à la base qui est un peu différent. C'est des hébergements insolites. Mais pour plusieurs raisons, on a décidé de pas le faire parce que c'était énormément d'investissement au début. Que effectivement, le Sri Lanka, c'est un pays qu'on avait découvert en vacances, mais pas en tant que résident. Donc, on a préféré y aller doucement, être prudent, d'abord apprendre à connaître le pays. Et ensuite, pourquoi pas développer cette idée. Mais voilà, c'était grosse somme d'argent à investir et on a préféré être prudent. Et on a eu raison parce que 4 mois après avoir emménagé, on a eu des attentats et on a eu plusieurs petites galères. Donc, on a eu raison d'être prudent et de pas tout miser dès le début sur ce gros projet avec un gros investissement.
Alors justement, quels sont les principaux obstacles que vous avez dû surmonter pour réaliser ce projet ?
Alors, avant de partir, on n'a pas eu trop d'obstacles, mais sur place, ça a été surtout des questions administratives. C'est vrai qu'il y a aussi la barrière de la langue. Les règles sont très, très différentes en France, en Suisse et au Sri Lanka. En Suisse, ils sont très carrés, ils font les choses très, très bien, très, très droit. Donc, c'est vrai que Fabien a eu beaucoup de mal à ce niveau-là. Au Sri Lanka, c'est tu fais les choses et après, tu demandes les autorisations. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. La barrière de la langue est très importante. À Candy, même si c'est une grande ville, tout le monde ne parle pas anglais. Donc, tout prend énormément de temps. On a dû se rendre beaucoup de fois à la capitale. Sauf que la capitale, c'est quand même 4 heures de route de chez nous. Donc, on a été retardé avec toutes ces procédures. Et puis, donc, encore une fois, nous, on a voulu faire les choses en règle. Donc, on a voulu enregistrer notre guest house à l'office du tourisme. On a voulu avoir les papiers. Et ça a été extrêmement long. On a eu on a créé notre guest house et ensuite on a eu les autorisations. Et on a eu ça à peu près 8 mois après avoir créé la guest house.
Tu disais que tout le monde ne parlait pas anglais. Du coup, quelle langue on parle au Sri Lanka ?
Alors, il y a 2 langues. Il y a le singhalais et le tamoul. Donc, en haut dans tout le nord et dans l'est, ils vont parler tamoul. Et dans le reste du Sri Lanka, ils vont parler singhalais. Ça dépend vraiment de la religion. Les musulmans et les hindous vont parler tamoul et les bouddhistes vont parler singhalais. Après, à l'école, on apprend l'anglais, mais c'est principalement à Colombo et dans le sud, en fait, où on va parler anglais. Mais ils ont quand même quelques mots d'anglais. On retrouve certains chiffres, on retrouve certains mots d'anglais dus à leur colonisation, mais voilà, c'est pas leur langue maternelle.
Et du coup, vous avez fait comment ? Vous avez appris sur place ou vous aviez peut-être quelqu'un pour vous aider, pour faire le pont entre votre anglais et puis la langue du Sri Lanka ?
Toutes les personnes qui sont vraiment dans les administrations, là, on a pu parler anglais, mais c'est vrai que en fait, on va parler un anglais simplifié, on va pas faire des phrases, on va vraiment dire des mots basiques. Sinon, à Colombo, heureusement, tout le monde parle anglais. Et ensuite, oui, effectivement, il a fallu aller régulièrement avec notre associé qui, lui, est singhalais. Donc, ce qui a beaucoup aidé dans les démarches. Mais sinon, on apprend un petit peu le singhalais. Quelques mots, disons que les mots basiques pour se diriger et avoir des conversations vraiment limitées. Mais c'est une langue qui est très compliquée à apprendre. Donc, c'est pas gagné.
Et tu mentionnes votre associé. Ça a été une des rencontres fortes pour vous permettre de réaliser ce projet ?
Oui, honnêtement, sans Kapila, rien n'aurait été possible. En fait, c'est le guide que nous avions lors de notre premier voyage au Sri Lanka. Et c'est vraiment une personne en or. Ça a été vraiment un coup de cœur amical avec lui. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, il est toujours présent. Il habite aussi à Kandy. Ça a été aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de vivre ici, parce qu'il est proche de nous. Donc, c'est vrai qu'en cas de besoin, on a ce repère-là et on a cette aide-là. Donc, Kapila a été vraiment la rencontre qui a tout fait au Sri Lanka.
Alors certains pourraient penser hein, que votre quotidien, c'est de vous dorer la pilule au soleil. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une semaine type chez Clémence et Fabien?
Alors, une semaine type pendant le Covid ou en dehors du Covid?
On va dire en dehors du Covid, hein, Léon. On est optimiste, on en sort.
Alors, en dehors du Covid, bah, elle est rythmée en fonction du nombre de personnes qu'on a à la maison, en fonction du nombre d'arrivées et de départs qu'on a dans la guest house. Donc, bah, c'est préparation des chambres, nettoyage des chambres, les courses. Nos courses se font entre plusieurs magasins parce que nous, on est très produits bio et zéro déchet. Donc, on essaye au maximum d'aller dans des magasins du commerce équitable. Donc, bah là, on doit jouer en fonction des heures et des jours d'ouverture de ces magasins-là. Donc, en général, ça nous prend une bonne de grosse demi-journée. Et puis, on travaille. Donc, une fois que les chambres sont prêtes pour recevoir les guests, bah, on travaille sur le blog, on travaille sur l'agence, on travaille sur les préparations d'itinéraires, sur les prochaines réservations, sur les réseaux sociaux. En fait, on passe énormément de temps devant les ordinateurs.
Alors, tu mentionnes l'agence, hein, parce que effectivement, vous commencez à proposer une offre d'agence en éco-tourisme. En quoi ça consiste exactement et comment est venu cet intérêt pour l'écologie?
C'est venu tout naturellement parce que Fabien en Suisse avait une société de tiny house. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les tiny house.
Les maisons en bois, peut-être ou...
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est les maisons en bois qui sont construites sur des remorques. Donc, c'est des logements alternatifs. Donc, c'est vrai qu'on était déjà sensibilisés à la cause écologie grâce à l'activité de Fabien. Et puis, on est de deux familles qui font très, très attention à l'écologie, à l'environnement, qui sont très bio, très végétariennes. Donc, c'était naturellement qu'on a décidé de continuer ça au Sri Lanka. D'autant plus qu'au Sri Lanka, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ils sont pas du tout sensibilisés sur l'écologie. Il n'y a pas de ramassage des ordures. Ici, on brûle ou on enterre. Donc, c'était vraiment important pour nous de proposer aux touristes une façon de voyager vraiment en accord avec ces principes-là. Une agence d'écotourisme, en fait, ça va être tout simplement une agence qui va proposer de sortir des sentiers battus, d'aller principalement dans des petits hébergements, dans des guest houses, des maisons d'hôtes. On essaye de sélectionner des hébergements qui ne proposent pas de bouteilles en plastique, par exemple. Ça peut être bête, hein, mais si tout le monde, tous les jours, prend 3 bouteilles en plastique d'1,5 litre, bah, à la fin de la journée, ça fait une grosse quantité. Donc, nous, on essaye de privilégier des hébergements qui ont des bonbonnes de 9 litres et qui les font remplir. Des hébergements avec des panneaux solaires, avec des hébergements qui proposent des savons et non pas du gel douche. Voilà, c'est plein de petites actions, mais des petites actions qui, à la fin d'un séjour, bah, comptent énormément. On essaye d'aller en dehors des sentiers battus, d'aller dans des, de faire un maximum d'activités avec des villageois, parce que moins il y a d'intermédiaires et plus il y a d'argent pour eux, donc plus ils ont
Bien
une
sûr.
meilleure qualité de vie. On essaye de faire beaucoup de randonnées, de balades, de promenades, de randonnées en vélo. On fuit tout ce qui est orphelinat d'animaux parce que, bah, il faut être honnête, hein, c'est un gros touriste. Les bébés, ça attire du monde. Donc, on retire les éléphantaux à leur maman pour donner de l'argent, une activité à des touristes et pour avoir de l'argent en contrepartie. Donc, c'est vraiment des choses qu'on boycotte. On fuit les grands safaris. On essaye vraiment d'aller dans des safaris où il y a très peu de jeeps, parce que faire un safari où il y a autant de jeeps que d'éléphants, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'est plein de petites actions, en fait, mais qui, au final, ont une grande importance sur le voyage au Sri Lanka.
Il y a des événements qui sont venus hein, perturber vos activités. Tu parlais des attentats au Sri Lanka à l'été 2019 et bah, plus récemment, la crise du Covid-19. Quelle stratégie vous avez mis en place pour garder la flamme de votre rêve intacte? Parce qu'il peut y avoir des doutes, du coup, de se dire, ben, on refait nos valises, on rentre, quoi.
Alors, suite aux attentats, honnêtement, on savait que les gens allaient, c'est un petit peu horrible, mais d'une certaine façon, oublier, comme on l'a si bien fait en France, comme on l'a si bien fait en Europe quand il y a eu des attentats. On savait que les gens allaient oublier, que c'était juste une question de temps. Là, c'est vrai que le Covid, c'est un petit peu compliqué parce que personne ne s'attendait à quelque chose comme ça. On ne s'est pas posé de questions parce que les gens ont toujours cette envie de voyager. Après, c'est vrai que nous, on a mis toute notre énergie à essayer de finaliser nos sites internet, à essayer de trouver des circuits encore différents, à essayer de donner cette envie toujours aux touristes de venir. Donc, on a énormément travaillé sur nos réseaux sociaux. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que l'envie de voyager n'est pas complètement disparue. C'est juste une question de logistique et de temps maintenant.
On n'oublie pas les attentats, mais on a envie justement de s'évader. Et pour s'évader, ben, on part au Sri Lanka, pourquoi pas, effectivement.
Voilà.
Alors, tu le sais, hein, le podcast Expatrios met en avant ceux qui ont relevé les défis de l'expatriation et sont allés au-delà d'eux-mêmes et ont développé quelque part des super capacités, j'appelle ça les super pouvoirs de l'expatriation. Toi, avec le recul, à ton avis, quel super pouvoir vous avez développé?
Alors, je dirais qu'on est super patient. Ça, c'est vraiment le premier point parce qu'au Sri Lanka, on ne s'énerve pas, on reste cool, tout prend du temps, donc il faut être super patient. Je dirais qu'on est devenu super polyvalent parce que il faut apprendre à tout faire. Hein. C'est gérer une guest house, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaissait. Ni une agence. Le blog, c'est aussi quelque chose de tout nouveau pour nous. Donc, du coup, il faut être super polyvalent. Et je dirais qu'on est super bronzé. Ça, c'est vraiment sympa. Quelque chose. Oui, on a un beau hâle, on est devenu tout mat. Ouais, voilà, je dirais que c'est ça. C'est vraiment les super pouvoirs qu'on a développés en étant expatrié.
Vous avez un blog hein, qui est très riche de conseils pour organiser au mieux son voyage et surtout avec cette période post-Covid-19. Et il y a plein d'articles sur les activités à faire au Sri Lanka, la culture sri-lankaise. Et justement, maintenant, dans cette deuxième partie d'interview, je te propose de nous emmener avec ta voix, avec tes mots, au Sri Lanka.
Avec plaisir.
Quel est ton endroit préféré au Sri Lanka, Clémence?
Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Le Sri Lanka, c'est un pays qui a des régions totalement différentes. Où qu'on soit au Sri Lanka, on découvre des nouveaux paysages, on découvre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle culture. Si on va au nord, ils sont plus tamouls. Si on va dans le sud, ils sont bouddhistes. Donc, c'est une façon de faire et de voir totalement différente. Si je devais choisir deux endroits, parce que un, c'est vraiment trop dur. Je dirais tout d'abord la région des montagnes avec Aputale. Aputale, c'est connu pour ses énormes plantations de thé du thé Lipton, donc en haut du Lipton site. Et là, on a 9 km de plaine vallonnée où les paysages en fait alternent entre plantations de thé et villages hindous. C'est vraiment un endroit magnifique, hors des sentiers battus que j'adore particulièrement. L'autre endroit, je dirais la côte est. La côte est, c'est une autre culture, une autre religion. C'est beaucoup de temples hindous. Les temples hindous sont très, très colorés, très kitsch, mais vraiment kitsch de façon incroyable, en fait. C'est un beau kitsch, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais on va dire que c'est un beau kitsch. C'est vraiment une région qui est plus sèche, plus aride, moins vert, mais c'est magnifique avec des plages incroyables, avec une eau bleue, on se croirait aux Maldives. Voilà, c'est vraiment, je pense, mes deux régions préférées au Sri Lanka.
Est-ce que tu dirais que, en fait, les paysages représentent un peu la culture de cette région-là? Parce que tu disais qu'il y avait plusieurs religions.
Oui, clairement. Tout ce qui est au nord et à l'est, c'est vraiment un autre décor, un autre paysage, et c'est aussi une autre religion, effectivement. Mmh. Et c'est vrai que bah, en Inde, il fait extrêmement chaud, et c'est vrai que bah, les hindous, les deux régions nord et est, qui sont principalement hindous, c'est aussi un paysage qui est plus aride, plus chaud.
Ouais.
C'est vrai.
Ah, ça doit être très riche, du coup, en découverte. Ça donne envie.
À chaque fois qu'on voyage sur l'île, on découvre des endroits différents. Il y a deux semaines, on est parti faire un petit tour de 10 jours à peu près. On était déjà allé sur la côte est, c'était pas la première fois. Mais on a vraiment voulu refaire du tourisme, vraiment dans les yeux d'un touriste. Et on a redécouvert encore des choses incroyables. Pourtant, on y est allé 5 ou 6 fois. Mais on a encore redécouvert des temples, redécouvert des endroits. Au Sri Lanka, à chaque fois qu'on y va, on a des découvertes à faire. C'est impressionnant.
Alors, pour sortir des sentiers battus, s'il y avait une activité à faire, tu dirais quoi ?
Le nord.
Ouais.
Sans hésiter, aller au nord. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, il y a eu une guerre civile pendant près de 30 ans. Donc, la guerre est finie depuis 11 ans seulement. Et on ne peut aller dans le nord du Sri Lanka que depuis 2015. Donc, c'est vraiment très récent. C'est une région où il y a très peu d'infrastructures touristiques, très peu d'hôtels. Moi, j'appelle la région du Nord, la région de Jaffna, je l'appelle un peu comme un musée à ciel ouvert. C'est vrai qu'il y a énormément de vestiges de la guerre. On retrouve des bâtiments qui ont été complètement démolis, brûlés. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. C'est une région à part entière et c'est quelque chose qui est hors des sentiers battus.
Quelles sont les différences culturelles les plus marquantes avec l'Europe et la France en particulier ?
Je dirais principalement le sens de la famille. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, la famille, c'est très, très important. Ils ont plusieurs enfants et en fait, on prend soin de génération en génération. Par exemple, on vit tous ensemble dans la même famille. Nos voisins, il y a les petits-enfants, les enfants, les grands-parents. Tout le monde vit ensemble dans la même famille et c'est aux plus jeunes de prendre soin des plus âgés. Il y a une vraie hiérarchie, un vrai respect. Par exemple, un fils, même s'il est majeur et même s'il est marié, ne boira pas une goutte d'alcool devant sa famille, devant son père. C'est très, très important. Ouais, alors, au début, nous, c'est vrai que ça peut nous choquer un petit peu, mais ici, c'est comme ça. Les enfants vont dormir dans le même lit que les parents et ils peuvent dormir dans le même lit que les parents jusqu'à 20 ans.
Wow.
C'est pour moi la plus grande différence culturelle, on va dire, et marquante surtout avec nous en Europe. C'est vraiment ce sens de la famille et cette façon de vivre tous ensemble.
Ouais. Et du coup, est-ce que la relation à l'alcool, là tu disais, on ne peut pas boire de l'alcool en face de ses parents. Est-ce que c'est pareil pour vous, par exemple, est-ce que si vous buvez de l'alcool devant une personne plus âgée, c'est une forme de un manque de respect ou pas ?
Oui et non. Ça va dépendre de la famille dans laquelle on est. Par exemple, nous, on va régulièrement chez nos voisins. Ils savent très bien qu'en Europe, les choses sont différentes, qu'on a une autre éducation. Une femme n'est pas censée boire de l'alcool. Mais moi, ça ne va pas poser de problème, d'autant plus que je suis une femme blanche, donc ça ne va pas poser de problème. Par exemple, on a été invité à un mariage il y a quelques mois, et en fait, à partir d'une certaine heure, les hommes uniquement vont boire dans une autre salle. Et moi, je ne voulais pas rester seule femme blanche au milieu de tout ça, donc je suis allée avec les hommes en haut. Au début, tout le monde m'a regardée un petit peu bizarrement, mais au final, ils étaient plutôt amusés et intrigués. Et puis plutôt heureux que je prenne part à ça avec eux, en fait.
Est-ce qu'il y a justement des comportements à éviter ? Quels conseils vous donnez aux touristes que vous recevez dans votre guest house ?
Il faut savoir que les Sri Lankais donc, sont très conservateurs. C'est vrai que c'est bien d'éviter les gestes d'affection en public. D'éviter de porter des tenues trop courtes, par exemple des jupes ou des shorts au-dessus du genou, d'avoir des décolletés. On ne dira jamais quelque chose, mais on risque d'avoir des regards un petit peu insistants. Il ne faut pas s'énerver au Sri Lanka, même si quelque chose est dérangeant, on ne s'énerve pas. C'est tout simplement un signe d'infériorité et de faiblesse. Donc, on ne s'énerve pas. Par contre, je dirais que le point le plus important, c'est de ne pas manquer de respect à Bouddha. Et ne pas manquer de respect à Bouddha, ça veut dire, par exemple, ne pas prendre de selfie avec Bouddha. On ne tourne jamais le dos à Bouddha. D'accord. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte parce qu'on peut finir en prison pour ça. Hein.
Ah oui. OK.
Ouais. Ça, on peut finir en prison. Pareil, si vous avez des tatouages ou des vêtements à l'effigie de Bouddha, eh ben, les vêtements, ne les prenez pas et les tatouages, cachez-les parce que ça peut être considéré comme une offense et encore une fois, on peut aller en prison pour ça.
Pour rigoler un peu, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui nous ferait sourire ?
Une anecdote, je dirais le head check. Le head check, c'est quelque chose qui est vraiment culturel ici. Donc, le head check, c'est un petit mouvement de tête. Donc, c'est un petit balancier qu'on fait de gauche à droite, ni trop vite, ni trop lentement. Il faut vraiment avoir le coup de main. Et en fait, okay. Le head check, ça veut tout dire. Ça veut dire oui, non, peut-être, bien sûr. Donc, ça peut être compliqué dans certaines situations. Par exemple, un jour, tout au début, on voulait un jus de fruits dans un restaurant. On voulait un jus de mangue. Et en fait, le serveur ne nous a pas dit oui, ne nous a pas dit non. Il nous a fait un head check. Et en fait, il n'avait pas de mangue, mais il ne nous l'a pas dit. Donc, du coup, il est allé chercher sa mangue. Donc, il a fait le tour de la ville pour nous trouver une mangue pour avoir notre jus de fruits. Donc, s'il nous avait dîné oui ou non tout de suite, ça aurait été plus simple. Mais non, il a fait son petit head check. Donc, voilà, ça donne des situations un petit peu cocasses des fois. Mais voilà, sachez que le head check, ça veut tout dire. Oui, non, ça veut tout dire.
D'accord. Et donc, du coup, c'est nuancé par rapport à la vitesse du head check. Comment ça se passe si on fait un head check lent, ça veut dire peut-être que oui. Et puis, un head check très rapide, ça veut dire non.
Non, même pas. Ça peut vraiment tout dire. Ça peut être autant oui que non, que peut-être. Donc, nous, maintenant, pour savoir si ça veut dire oui ou non, on rajoute pull one. Pull one, ça veut dire possible. Est-ce que c'est possible, en fait? Donc, on fait le head check en cas de doute et on dit pull one. Et s'il nous dit pull one, ça veut dire que c'est bon.
D'accord. C'est bon à savoir. Alors, dernière question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite lancer une activité similaire à la vôtre dans une destination paradisiaque, tant qu'à faire, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais de prendre son temps, de réfléchir, d'examiner toutes les possibilités, de rencontrer un maximum d'expatriés, d'être très, très prudent. Les arnaques, ça existe en Thaïlande, au Sri Lanka, en Amérique du Sud, ça existe partout. Il faut savoir que quand on s'expatrie dans un pays un peu exotique comme ça, on est un peu vu comme des portefeuilles ambulants. Donc, comme partout dans le monde, hein, y a des personnes qui sont malveillantes et qui vont essayer de profiter de cette situation. Donc, prenez votre temps, réfléchissez bien, réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous avant tout, pas pour les autres. Essayez de proposer quelque chose de différent. Et si vous pouvez aussi targeter, donc viser les locaux, c'est quelque chose d'important. Nous, on l'a vécu deux fois de suite entre les attentats et le Covid. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de touristes et que vous ne vivez que du tourisme, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment essayer de proposer quelque chose aussi bien pour les touristes que pour les locaux sur place.
Ça facilite également l'intégration dans le pays, travailler avec les locaux.
Ah, de toute façon, il faut travailler avec les locaux. Si vous êtes un expatrié et que vous ne voulez travailler qu'avec des expatriés, vous allez automatiquement vous attirer les foudres des locaux parce que d'une certaine façon, vous leur prenez leur travail. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, le salaire moyen est de 150 € par mois. Donc, si vous créez pas d'emploi pour eux, vous allez vous attirer les foudres des gens ici, c'est sûr. Vous êtes obligé de...
C'est normal.
Vous allez vivre dans un pays, il faut faire vivre, il faut aider ces personnes, il faut donner du travail à ces personnes. Vous n'avez pas le choix, sinon vous ne serez pas intégré, effectivement.
Merci beaucoup, Clémence, pour ton témoignage. C'est incroyable. Je trouve toujours d'entendre ces parcours et ton parcours en particulier, avoir créé une maison d'hôte au Sri Lanka avec son chéri. Oui, c'est possible, mais c'est un sacré défi. Et tu nous as montré qu'avec de la patience, du travail... beaucoup de volonté, on peut y arriver. Je te souhaite plein de succès pour la suite, Clémence.
Merci beaucoup, Christina. C'était vraiment chouette.
Et puis, vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver des informations sur le Sri Lanka sur le blog de Clémence et Fabien, unpassportencavale.com. Et bah, n'hésitez pas à contacter Clémence directement sur le site pour avoir plus d'infos, pour organiser votre voyage. Merci Clémence, à très bientôt.
Merci, bonne journée.
L'épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. On se sent un peu coincé à cause de cette pandémie. Alors j'espère que cet épisode vous aura fait voyager. C'est pas vous, mais moi en tant qu'expatriée, je me sens plus isolée que jamais à cause de cette crise, loin de mes proches. Et je me demande bien quand est-ce que je vais les revoir. Mais à la fois, je sais que ceux qui peuvent comprendre ce que je ressens, ce sont les expatriés à travers le monde. Toi qui m'écoutes, tu me comprends sûrement. Qu'on le veuille ou non, on forme une communauté, il ne tient qu'à nous de nous entraider. Alors le message que j'ai envie de transmettre en cette fin d'épisode, c'est de penser aux expats entrepreneurs aux quatre coins du globe, aux difficultés qu'ils peuvent traverser en ce moment, et de soutenir leur activité dès que possible. Énorme big up à tous les entrepreneurs expats. Plein de courage à tous pour cette rentrée, où que vous soyez à travers le monde. Pour le prochain épisode, on s'envole en Corée pour découvrir un nouveau projet d'expat qui déchire. À la prochaine !